Europe 1.
Le journal de 8 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était hier soir à Sciences Po Paris. Plus d'une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le bâtiment de la rue Saint-Guillaume. Ils en avaient déjà été évacués la veille. Ils réclament, je cite, la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et l'arrêt de ce qu'ils estiment être une répression des voix pro-palestiniennes sur le campus.
Voilà, démobilisation partie des universités américaines, notamment à Columbia, à New York, qui a des cursus d'ailleurs en commun avec Sciences Po Paris.
La direction de cette université américaine a décidé ce matin d'ajourner l'évacuation prévue ce soir. Elle veut poursuivre les négociations avec les collectifs pro-palestiniens. En revanche, la police est intervenue dans de nombreux états. Au total, près de 400 manifestants interpellés, une soixantaine d'universités concernées, dont celle de UCLA à Los Angeles, où ni juifs ni journalistes ne sont les bienvenus à Viva Fried.
Oui, environ 200 manifestants ont érigé des tentes sur une pelouse au centre de l'université. Tout autour, il y a des palettes en bois sur lesquelles sont accrochées des affiches proclamant Free Palestine ou bien encore Abat l'impérialisme américain. Des étudiants, tous masqués, revêtus de keffiyeh, se relaient au mégaphone pour hurler des slogans. Les journalistes ont interdiction de passer la barrière et de parler à n'importe qui. J'ai dû attendre qu'une porte-parole officielle du mouvement veuille bien me répondre par un discours bien rodé.
Nous sommes ici car on ne peut pas faire comme d'habitude alors qu'un génocide se déroule à Gaza depuis 200 jours.
Et pas question, bien sûr, de mentionner les otages israéliens retenus par le Hamas.
Si on pense à autre chose, ça nous détourne de notre principal objectif.
Une vingtaine d'étudiants arborant des drapeaux israéliens circulent sans encombre. Pourtant, une étudiante juive m'explique qu'au quotidien, les choses sont compliquées.
J'ai eu une altercation avec une femme. Elle a regardé mon étoile de David et elle m'a poussée violemment.
Mais la direction de UCLA n'a pas l'intention pour l'instant de prendre des mesures contre le campement. La présence policière sur place est d'ailleurs quasi inexistante.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Emmanuel Macron a annoncé hier soir envisager de nouvelles sanctions contre les colons israéliens, coupables selon lui de violences sur des civils palestiniens.
Oui, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le roi de Jordanie, Abdallah II, le chef de l'État a condamné la colonisation en Cisjordanie et rappelé que des mesures de sanctions avaient déjà été prises par la France, mais aussi la semaine dernière par l'Union européenne.
Les institutions européennes qui subissent la pression permanente de l'entrisme islamiste, notamment à Bruxelles.
La capitale européenne, de plus en plus islamisée, Europe 1 a choisi de vous en parler ce matin. Dans certaines rues, on ne trouve plus que des boutiques de voile intégrale, des poupées sans visage et autres accessoires fidèles à la charia. Une réalité de plus en plus portée par les femmes voilées et qui pèse sur le quotidien des Bruxellois, comme l'expliquait ce matin Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin à 7h10.
Ces 20 dernières années, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont en avant-plan des militantes islamistes qui revendiquent le droit de porter le voile et de le porter partout. Elles sont éduquées pour la plupart du temps, elles ont un niveau d'éducation universitaire et elles sont très influentes parce que les frères musulmans, évidemment, ont compris qu'avec les femmes, ils pouvaient avancer leur projet califal, imposer les normes chariatiques ici à Bruxelles, mais aussi partout en Europe, puisque Bruxelles est quand même aussi la capitale de l'Europe, les institutions européennes s'y trouvent.
Oui.
Et il y a une influence des frères musulmans qui est très présente. Mais c'est aussi dans certaines écoles, l'équipe éducative est constituée, la direction de personnalités de confession musulmane. Ces professeurs réprimandent les filles qui parlent, par exemple, dans les couloirs de l'école avec un garçon. Elles sont réprimandées par ces professeurs. Si elles décident d'enlever le foulard lors d'une sortie à la mer, elles sont rappelées à l'ordre parce que enlever son voile est péché.
Fadila Maroufi, invitée d'Europe 1 matin, entretien retrouvé sur Europe 1.fr.
Il est 8h05 en Iran. En revanche, les femmes aspirent de plus en plus à retirer leur voile et à se libérer de la charia malgré la répression des mollahs.
Et c'est parce qu'il a soutenu ce mouvement de libération des femmes dans ses chansons que le rappeur iranien de 33 ans, Toumaj Salehi, a été condamné à mort. Une décision que le Quai d'Orsay estime injustifiable et que la France condamne avec vigueur.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
Simuler un suicide pour que sa femme ne le quitte pas. Voilà ce qui se serait joué dans l'intimité de la caravane de Kenji Girac lundi matin.
Et c'est en tout cas ce qu'a affirmé le chanteur aux enquêteurs. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans les Landes, vous avez assisté hier à la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan qui a restitué le témoignage de Kenji Girac.
Oui, le magistrat a livré beaucoup de détails. Dans les heures qui ont suivi ce coup de feu, souvenez-vous, Kendji Girac avait parlé d'un accident de manipulation de l'arme de sa part. Impossible, disent les spécialistes de la balistique, les experts, qui écartent aussi un tir effectué par une autre personne. Ce n'est pas compatible avec la disposition des lieux. Dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque Kendji Girac retrouve sa compagne et leur petite fille dans la caravane, il a beaucoup bu, 2,5 grammes d'alcool dans le sang, d'après les estimations médicales qui seront faites. Éclate alors une dispute entre le chanteur et sa femme, d'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur enfant de 3 ans. Soraya envisage de partir alors qu'elle se trouve avec sa fille dans la chambre. L'artiste de 27 ans, lui, est seul dans le salon et va s'emparer du pistolet acheté quelques jours plus tôt. Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Sur le plan judiciaire, quelques expertises sont encore en cours, mais le procureur a clairement laissé entendre que cette procédure devrait se terminer par un classement sans suite.
Stéphane Place en direct de Mont-de-Marsan dans les Landes pour Europe 1. Notez que les proches de Kendji Girac ont jugé la conférence de presse du procureur de la République indécente. Sur X, le chanteur Vianney a critiqué un procureur, je cite, multicasquette, et d'ajouter « j'espère que la presse People lui enverra des fleurs ».
Le coup prêt est attendu pour ce soir. Les agences de notation Fitch et Moody's doivent réévaluer la note de crédit de la France.
Une dégradation de la note, si elle reste raisonnable, n'aurait pas beaucoup d'impact sur les marchés. D'autant que la France, même dans le rouge, reste une place qui séduit les investisseurs.
Oui, mais un pays où le coût du travail est de plus en plus lourd pour les entreprises.
Et selon un rapport de l'OCDE, nous sommes les champions du monde des charges patronales. Sur les 38 pays passés au crible, c'est en France que les employeurs ont payé le plus haut niveau de cotisation en 2023. Et c'est un sacré handicap, Barthélémy Philippe.
Oui, malgré les récentes politiques d'allègement de charges, les cotisations patronales pèsent toujours très lourd en France. Un peu plus de 26% des coûts de main-d'œuvre supportés par les entreprises. C'est deux fois supérieur à la moyenne de l'OCDE qui tourne autour de 13% et beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens. Par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni, les charges patronales ne représentent respectivement que 16 et 10% des coûts de main-d'œuvre. Évidemment, le poids de ces charges freine la compétitivité française. Alexander Pick est membre de la division fiscalité de l'OCDE.
Le coût de travail, ça reste très élevé en comparaison avec la plupart des autres pays. Ceci dit, il y avait une petite baisse en 2023.
La pression fiscale sur le revenu est l'une des plus fortes au monde. Au total, les charges patronales, salariales et l'impôt sur le revenu représentent près de 47% du coût de la main-d'œuvre. En France, un employé au salaire moyen, environ 2600 euros net par mois, coûte plus de 6000 euros à son employeur.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Les sports, Roland Garros, c'est dans un mois.
Oui, Europe 1 est encore fier cette année d'être radio officielle du Grand Chelem parisien. Pour cette édition 2024, aucun risque d'être embêté par la pluie. Tous les cours seront couverts, même le Suzanne Lenglen, Axel May.
Roland Garros, c'était la dernière épreuve du Grand Chelem à ne proposer qu'un seul cours couvert. Ce ne sera plus le cas. 4 ans après le central, le Suzanne Lenglen se dote enfin d'un toit rétractable. Se félicite la directrice du tournoi parisien, Amélie Morin.
C'était vraiment important d'avoir ce deuxième court couvert en capacité d'abriter 10 000 personnes. C'est un vrai plus pour nous en termes de programmation, de sécurité sur des journées où on saura qu'il risque de pleuvoir.
Pour la première fois, le cours Suzanne Lenglen sera d'ailleurs utilisé lors de la semaine des qualifications, semaine durant laquelle les organisateurs visent 75 000 spectateurs, 50% de plus que l'année dernière. Sur l'ensemble du tournoi, plus de 650 000 personnes sont attendues, porte d'Auteuil, ce qui constituerait un nouveau record. Parmi les autres nouveautés, une 11e session nocturne va faire son apparition et la billetterie sera totalement dématérialisée. Pour pouvoir présenter leurs billets, les spectateurs devront donc télécharger l'application Roland-Garros.
Axel May.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.